VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 16h à Bamako, 17h à Kinshasa. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, les députés sud-africains ont décidé de ne pas siéger la semaine prochaine pour aller mener campagne contre la xénophobie dans leur circonscription. Plus d'explications avec Idriss Fall.
Le Parlement ajoute sa voix au concert de condamnation des violences contre les étrangers en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma a reçu les responsables d'associations d'immigrés et a encore une fois dénoncé la haine, la violence, le racisme et la xénophobie. Hier, des milliers de personnes ont manifesté à Johannesburg. L'armée a été appelée en renfort pour tenter de ramener le calme dans le township d'Alexandra. Les attaques contre les immigrés africains avaient commencé à Durban. Elles ont fait au moins 7 morts et des milliers de déplacés. Plus de 20 ans après la fin de l'apartheid, ces immigrés sont accusés de prendre le travail des Noirs sud-africains les plus touchés par le chômage et la vie dure dans les bidonvilles. Selon le Centre des migrations africaines de l'Université Witwatersrand de Joburg, plus de 350 étrangers ont été tués depuis 2008.
Les Togolais votent demain pour choisir leur président parmi 5 candidats, dont le président sortant Faure Gnassingbé et Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition. La campagne s'est terminée hier dans le calme. Retour sur le dernier jour de campagne des 5 candidats avec notre correspondante à Lomé, Kaïlo Son.
Pour ce dernier jour de campagne, CAP 2015 a sorti le grand jeu à Lomé. Plus de 8 heures de caravane distante sur des milliers de mètres. Jean-Pierre Fabre et sa suite ont parcouru les différentes artères de Grand Lomé. La vague orange a achevé sa course au stade Omnisport de Lomé, archi-comble pour cette ultime sortie du candidat de CAP 2015.
Nous descendons depuis l'extrême nord. Nous sentons depuis quelques jours une aspiration au changement. Nous voyons que les populations sont mobilisées vers l'objectif final, qui est la victoire des forces de changement.
Initialement annoncé à Kara pour le dernier jour de sa campagne, le président sortant n'a pas fait le déplacement de sa ville natale. Tout comme son challenger, Faure Gnassingbé a battu campagne dans le Grand Lomé avec des meetings dans 3 cantons dans les banlieues de Lomé.
Si j'ai tenu à faire tous ces cantons, c'est pour vous expliquer que ce que nous avons commencé dans la commune de Lomé, nous allons l'étendre aux cantons environnants. Nous commencerons par renforcer la sécurité dans ces quartiers qui ne sont pas toujours éclairés. Nous allons construire et réhabiliter les salles de classe.
Le candidat notaire est retourné dans son Sokodé natal pour clôturer sa campagne. Même si le candidat du MCD met la justice au centre de son programme de société, Maître Mohamed Tchassona Traoré n'a pas manqué de fustiger la dynastie présidentielle au Togo.
Ce pays est indépendant depuis 55 ans. Quand vous regardez un peu notre évolution en comparaison avec nos voisins, le Ghana à côté, le Bénin à côté, au moins dans ces pays, ils ont compris qu'une seule famille à la tête de l'État, et ils ont fini avec. Ici, après le père, on a le fils. Les gens ont pris le pays comme s'ils en avaient obtenu un titre foncier et ils le gardent ad vitam, transformant tous les citoyens togolais en presque des sujets.
Retour à la terre natale, c'est ce que le professeur Aimé Gogué, candidat de Hadi, a aussi faire en ce dernier jour de campagne. Le natif de Dapaon dit mieux incarner l'aspiration du peuple togolais pour l'avènement de l'alternance dans le pays.
Nous avons l'impression que certains se contentaient du titre d'opposant. Mais pour nous, nous devons passer à une autre étape qui consiste à avoir véritablement l'alternance pour mettre fin à l'hégémonie, au pouvoir d'unir. La population veut une alternance qui signifie également changement de personnes, mais surtout changement de la manière de gouverner, de diriger ce pays.
Directement, le plus jeune des candidats a pendant ces 14 jours apporté un message articulé autour de 3 pôles. Même message délivré ce 23 avril à Thiévier, à une trentaine de kilomètres au nord de Lomé.
La première, c'est le développement économique inclusif. Le deuxième, c'est les réformes politiques constitutionnelles et institutionnelles. Et le troisième, il faut régler le problème des fonctionnaires avec la possibilité d'augmenter de 30% des salaires l'ensemble des fonctionnaires.
Pendant la dizaine de jours qu'a duré la campagne électorale, l'ambiance était bon enfant, ce qui tend à rassurer les populations qui veulent rompre avec le cycle élection, contestation, violence. Kaïlo Son, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
Et les Béninois se rendent également aux urnes dimanche pour des élections législatives. 4,4 millions d'électeurs doivent élire les 83 députés du futur Parlement. Au Burundi, également, demain, samedi, est un jour de tous les dangers. Le parti au pouvoir doit désigner son candidat à la présidentielle. L'opposition et la société civile sont mobilisées contre la candidature du président sortant, Pierre Nkurunziza, qui a déjà fait deux mandats. Idriss Fall a joint à Bujumbura Noël Nkurunziza, représentant de Transparency International.
C'est un samedi au Burundi, parce qu'il est programmé une assemblée des membres du parti au pouvoir. Et lors de cette assemblée, on devra élire le candidat qui devra être présenté comme candidat au présidentiel. Et il y a de fortes chances que ce soit le président actuel qui reviendrait pour faire encore 5 ans après les 10 ans qu'il vient de diriger le pays, ce qui est contraire aux accords d'Arusha et de la Constitution.
C'était Noël Nkurunziza, le représentant de Transparency International, joint à Bujumbura. Au Gabon, la tension monte avant le rapatriement mardi du corps d'André Mba Obame, figure de l'opposition, décédé le 12 avril au Cameroun. Le dispositif policier est renforcé à Libreville, où des opposants ont été interpellés après une mystérieuse découverte d'armes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et toujours dans l'actualité africaine, dans l'est de la République démocratique du Congo, 5 personnes ont été tuées à la machette en territoire de Beni, théâtre de massacres récurrents attribués à des rebelles ougandais. L'ex-président tchadien Hissène Habré sera jugé au Sénégal à partir de juin. C'est ce qu'a affirmé le ministre sénégalais de la Justice. Plus de détails avec Bagassikoura.
Maître Sidiki Kaba a annoncé que d'ici 2 mois, lorsque les juges seront imprégnés du dossier, on entrera dans la phase active du procès, ajoutant que sans doute ça va être au mois de juin. Le ministre s'exprimait à Dakar lors de l'installation des juges des chambres africaines extraordinaires. Ce tribunal spécial chargé de juger Hissène Habré, la cour sera présidée par le juge burkinabé Berdao Gustave Kam, qui sera assisté de 3 magistrats sénégalais. Ils ont été nommés par l'Union africaine qui a demandé au Sénégal d'organiser ce procès. Hissène Habré, qui a dirigé le Tchad de 1982 à 1990, est inculpé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture. Mais le ministre Kaba a précisé que si l'accusé est reconnu coupable, il ne sera jamais condamné à mort parce que le Sénégal a aboli la peine de mort en 2008.
Au Niger, l'épidémie de méningite a fait 129 morts, dont 74 à Niamey, selon le ministre de la Santé, Mano Agali. Plus de 600 000 doses de vaccins sont arrivées hier à Niamey. Conflit au Darfour dans l'ouest du Soudan. Dans un nouveau rapport intitulé « Le chaos au Darfour », le groupe de réflexion International Crisis Group, ICG, affirme qu'il n'y a pas eu de progrès tangible en un an pour résoudre la crise dans la région. Jérôme Toubiana est chercheur de l'ICG.
Ce qui se passe, c'est un petit peu une guerre de tous contre tous. Ce qu'on voit, c'est que le conflit, qui au départ était quand même d'abord un conflit entre gouvernement et groupes rebelles, est devenu un conflit entre des communautés extrêmement diverses, parfois à l'intérieur même d'une même communauté, et que toutes ces communautés, au cours de ce conflit, beaucoup d'entre elles en tout cas, ont réussi à acquérir des armes, en particulier en jouant le rôle de milices supplétives pour le gouvernement, et que maintenant elles utilisent ces armes essentiellement pour se battre les unes contre les autres.
Les chiffres publiés par l'International Crisis Group sont quand même assez effarants. Vous mentionnez qu'environ 450 000 personnes ont été déplacées en 2014 et près de 100 000 en janvier 2015.
Ce sont des chiffres des Nations Unies. Ils sont larges et relativement approximatifs. Ce qui est intéressant, c'est surtout de regarder l'année 2013, où il y a eu des conflits justement entre milices arabes autonomes échappant au contrôle du gouvernement, où il y a eu déjà 450 000 déplacés. Et en 2014, la même chose, 450 000 déplacés.
C'était Jérôme Toubiana, chercheur de l'ICG. Il répondait aux questions de Camille Grosdidier. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 50 minutes. Retrouvez-nous 24 heures sur 24 sur voaafrique.com et sur notre page Facebook. Bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info.